avant d'aller plus loin. Seigneur, nous sommes conscients que si nous sommes ici ce matin, c'est parce que tu es le Dieu qui agit dans notre monde. Et nous qui étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées, par nos œuvres mauvaises, toi, tu nous as réconciliés avec toi par la mort de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous sur la croix, pour nous faire paraître devant toi, saint, sans défaut et sans reproche. Et donc, nous cherchons encore ce dimanche, Seigneur, à être un peuple qui est fondé et inébranlable dans la foi en Jésus-Christ. Que aucun de nous se détourne, Seigneur, de l'espérance de l'Évangile que nous avons entendu. Cet Évangile qui nous sauve, qui a été proclamé à toute créature, selon l'apôtre Paul, sous le ciel. Et dont lui, l'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre aux Colossiens, il est devenu le serviteur. Donc, nous puissions encore bénéficier donc, de cette œuvre de Paul par ton esprit aujourd'hui, que tu nous parles et que ton serviteur écoute. Tant que tu sois avec nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors si le dimanche matin, je passe à peu près 2 heures de mon temps en compagnie d'autres chrétiens. Il n'y a peut-être pas uniquement des chrétiens ici présents, peut-être des personnes simplement en visite qui observent. Vous êtes aussi les bienvenus. Mais généralement, l'Église est remplie plutôt de chrétiens. Si je loue donc pour dimanche, le dimanche matin, le Seigneur, je reçois de l'instruction à propos de la foi chrétienne dans la Bible. Le lundi, c'est une autre paire de manches, nous devons l'avouer pour la plupart d'entre nous. Car le lundi, je suis de nouveau en classe éventuellement avec une bonne vingtaine de personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions que j'ai à propos de Jésus-Christ. Peut-être je me retrouve au bureau où toute mon équipe, de par leurs échanges, font preuve des priorités qui sont fort éloignées des miennes. Peut-être je me retrouve dès la fin du culte, ici le dimanche, dans un contexte familial où on se méfie royalement de ma foi protestante, évangélique, mais c'est quoi ça? Où il y a donc de la médisance au sujet de ceux qui prennent la foi en Jésus-Christ au sérieux. Donc oui, le dimanche, j'aime, bon, nous espérons que vous aimez, chanter, échanger, prier, écouter le message, etc. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de notre vie, n'est-ce pas? Comment faire pour l'autre partie, qui est, qu'on le veuille ou non, la plus grande partie pour la plupart d'entre nous? Alors notre texte ce matin nous en parle. Dieu se soucie pour toutes mes relations, bien évidemment, chrétiennes et non chrétiennes. Jusque-là, dans l'Épître aux Colossiens, la lettre a évoqué nos relations dans l'Église, nos relations ensuite au sein du foyer. La fois dernière, on a évoqué des différentes relations hommes, femmes, enfants, esclaves. À ce moment-là, les esclaves étaient dans le foyer. Mais dès lors, l'apôtre se tourne vers nos relations avec ce que Paul il appelle au verset 5, nous avons vu ça dans ce texte, « ceux de l'extérieur ». Ceux, ça signifie « en dehors du peuple de Dieu », l'Église de Jésus-Christ. Si vous lisez comme moi ou comme ce texte dans la version second 21, d'une certaine manière, cela est clair par les sous-titres. Mais il faut savoir que les sous-titres ne sont pas inspirés. C'est juste quelques personnes qui se sont dit, comment est-ce que ceci résume ce qui est dans la Bible? Donc, il ne faut pas se fier à tous égards aux sous-titres. Mais avant d'arriver à notre texte, le second 21.1, les relations dans l'Église, ensuite les relations dans la maison, mais ensuite pour notre partie, c'est marqué « dernières instructions ». Alors, je trouve ça un peu bof, même si j'ai du respect pour ceux qui ont décidé de faire ces sous-titres. Et j'aime plutôt ceux qui ont fait les sous-titres pour la Nouvelle Bible Second, où eux, ils disent « attitude à l'égard de ceux du dehors ». Je pense que ça exprime bien ce qu'on trouve dans notre texte aujourd'hui. Car Dieu, il transforme toutes nos relations. D'abord avec lui, on a vu ça déjà dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 21. « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Comment est-ce qu'il a fait ça? Par la mort de Jésus le Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Ça, Dieu, de par l'Évangile, par la foi en Jésus-Christ, il a effectué ça dans la vie de tout croyant. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous donc connaissons la grâce et la paix et l'amour de la part de Dieu, c'est ça notre souhait pour vous si vous êtes en visite avec nous aujourd'hui. Alors cela ne nous laisse pas indifférents lorsqu'il est question de nos relations avec ceux du dehors, de l'extérieur. D'abord, c'était le cas avec des croyants. Chapitre 3, verset 13, que dit-il? « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Mais pourquoi? « Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » On ne peut pas plaider le pardon de Christ sans vouloir mettre en œuvre ce pardon dans nos relations avec les autres. L'Évangile transforme mes attitudes. Et même pour notre attitude envers le non-croyant, notre conjoint, on a vu la semaine dernière, nos enfants, notre employeur. Cela n'est pas optionnel, si vous voulez. Je ne peux pas réclamer le Dieu que j'aime le dimanche et je rentre et je traite ma femme, par exemple, avec du mépris le dimanche soir. Ce n'est pas cohérent. Mais qu'en est-il alors de mes rapports avec ceux de l'extérieur? Alors ici, avant d'entrer dans le texte, j'aimerais qu'on imagine une grande piscine et quelqu'un à côté de la piscine qui ne sait pas encore nager. Parce que si on veut qu'une personne apprenne à nager, il y a deux réactions à éviter. La première réaction, c'est de se plonger naïvement dans le grand bassin et se rendre compte par la suite assez rapidement qu'on ne sait pas comment nager. Et donc nous sommes submergés par l'eau et nous sommes en danger de se noyer. Une telle personne, si vous voulez, est un chrétien qui ne voit aucun danger dans ses relations avec le monde à l'extérieur, des non-croyants. Aucun danger des attitudes et des amitiés qu'il peut y avoir. Aucun danger avec des posts sur des réseaux sociaux ou des propos de leurs collègues. Alors une telle personne est vite submergée par des valeurs, les attitudes et les pensées de ceux qui les entourent. Mais l'autre réaction devant la piscine, c'est laquelle? C'est d'avoir tellement peur de l'eau qu'on ne met jamais un pied dans l'eau. C'est trop dangereux, trop difficile. Du coup, il faut éviter la piscine à tout prix. Et si vous voulez, cela c'est l'équivalent du croyant qui a tellement peur du monde, de son influence sur la foi, qu'il essaye de se protéger en évitant le plus de possible de relations proches avec le monde. Oui, bien sûr, il faut toujours travailler, on est d'accord, il faut faire nos courses au supermarché, etc. Mais le monde, c'est mauvais. C'est ça, cette optique. Et donc, il faut me tenir à part, pas s'ouvrir relationnellement à ce du dehors, pour ne pas être exposé aux mauvaises influences. Et donc, nous nous éloignons le plus possible de tout contact avec le monde, pas de téléphone, pas d'alcool, pas de temps en compagnie de telle personne, si nous pouvons l'éviter. Mais une telle personne court, lui ou elle, le danger de ne pas comprendre que le monde, ce n'est pas simplement ce qui est à l'extérieur de nous, mais également en nous, car le péché vient du cœur de l'homme et pas parce que je ne suis pas exposé à certaines choses. Et donc même dans un monastère, le péché est là, est présent. La solution n'est pas de se retirer du monde, mais de ne pas appartenir au monde. Jésus priait, Jean chapitre 17, « Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. » Et cela nous mène donc à notre texte de ce matin qui se divise, je pense, en deux parties structurées autour des deux impératifs que nous voyons. D'abord, persévérer au verset 2 et ensuite, conduisez-vous au verset 5. Tous les deux, ces impératifs gardent un œil sur notre attitude à propos de ceux de l'extérieur. Et donc, si vous vous considérez comme étant quelqu'un de l'extérieur, ben, je vous invite à découvrir comment nous devons agir auprès de vous, les croyants, mais également de découvrir ce que la foi en Jésus-Christ impliquerait pour vous si vous placez vous-même votre foi en Jésus-Christ. D'abord, le premier impératif, un engagement à prier régulièrement. Verset 2, tout simple, n'est-ce pas? Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Oui, la prière est une marque d'un chrétien authentique. Que faisaient les premiers chrétiens le jour de la Pentecôte, acte 2? Bon, on a déjà lu en Église ce dernier temps ce verset, 42, je pense. Ils persévéraient, c'est le même mot qu'on voit ici, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dieu, vous voyez? Bon, en fait, non, vous ne le voyez pas. Nous ne le voyons pas encore, Dieu, même si nous sommes croyants. Rappelons-nous, si cela est le cas, que si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, après avoir entendu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec lui, cela signifie, début du chapitre 3 du livre de Colossiens, que notre vraie identité se trouve aujourd'hui en Christ. Notre vie, chapitre 3, verset 3, est cachée avec Christ en Dieu. Elle est donc encore cachée, vous voyez, jusqu'à ce que Christ paraîtra. Et à ce moment-là, dit le texte, verset 4 du chapitre 3, nous paraîtrons aussi avec lui. Cette nouvelle identité que nous avons donc en Christ est donc pour le moment en grande partie encore cachée. Mais toutefois, elle est réelle, nous avons vu cela. Nous sommes déjà, d'une certaine manière, ressuscités avec lui, à la vie avec le Seigneur qui nous a rachetés. Donc la prière est le moyen de reconnaître la réalité de notre identité encore cachée dans le Dieu invisible. Car ce Dieu, il est là. Chapitre 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Cela est vrai. Et donc, nous nous tournons vers Dieu dans la dépendance lorsque nous lui parlons dans la prière, car nous devons encore patienter avant de voir ce Dieu invisible face à face dans la gloire. Pour le moment, Christ en nous est le message qui donne quoi, selon le chapitre 1, verset 27, qui donne l'espérance de la gloire. Donc, pas encore une réalisation de cette gloire, mais encore l'espérance de cette gloire. Alors, d'ici là, qu'est-ce qu'il faut faire? Persévérer dans la prière et ensuite veillez-y. Il faut veiller. Pas veiller dans le sens où nous devons essayer de déterminer à quel moment Jésus va venir ou par quelle porte il va entrer. Non, veiller dans le sens où nous sommes soucieux d'ici son retour de mener une vie chrétienne qui témoigne de la réalité de notre identité actuellement cachée en Christ. C'est bien ça, ce que Paul a commencé à faire, ou a conseillé les Colossiens à faire, depuis le chapitre 3, verset 5. Parce que le verset 5 du chapitre 3 nous dit ceci. « Faites donc, à la lumière de votre identité, faites donc mourir votre nature terrestre. Bah, » Pour pouvoir faire cela, pendant cette période, il faut veiller. Il faut être attentif plutôt que naïf. Un autre texte semblable qui en parle, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, restez vigilants, même mot pour veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Vous ignorez peut-être cela. Ce n'est pas parce que nous avons placé notre foi en Christ que nous avons l'espérance de la gloire, que nous ne devons pas veiller, nous devons veiller, parce que l'ennemi, il agit. Et donc, de ne pas faire appel à notre Père céleste dans la prière régulièrement, fait preuve, du coup, d'une naïveté à propos de la pression que nous voyons dans ce monde non-croyant, de ceux de l'extérieur, de la lutte de continuellement chercher pour le croyant aujourd'hui les choses d'en haut, plutôt que de vivre comme si je n'appartenais pas à Dieu et donc être fixé sur les choses terrestres. Il y a, chers amis, une pression de céder encore aujourd'hui, si nous sommes croyants en Jésus-Christ, aux idoles et aux plaisirs que cette vie terrestre semble nous offrir. Le confort, la satisfaction, l'approbation de la part des autres. Le chrétien qui prie, c'est celui qui sait qu'il est faible quant à ses pressions, quant à son cœur à lui. Un tel est mieux placé, celui qui reconnaît sa faiblesse, que le chrétien qui est trop confiant en lui-même. Car celui qui reconnaît sa faiblesse cherche du coup le soutien et le secours qui vient de Dieu. En pratique, cela signifie quoi? Persévérer dans la prière, de prier régulièrement, pour toi-même, pour les autres autour de toi. De façon, je crois, disciplinée, de ne pas prier rien que lorsque tu as le temps, mais de faire de la prière un engagement, tout comme tu fais pour d'autres habitudes quotidiennes. Comme disait une connaissance chrétienne indienne de mon épouse qui travaillait dans la même église qu'elle à Londres à un moment donné, il n'y a personne qui arrive au travail ou à l'école ou même à l'église, je vois que c'est le cas encore aujourd'hui, et qui dit à la personne à côté d'eux, « Oh, toutes mes excuses, je n'ai pas eu le temps de brosser mes dents ce matin, donc gardez-vous à distance si vous voulez bien. » Ou « Je n'ai pas eu le temps de m'habiller, voilà pourquoi je suis là en pyjama. » Non, certaines choses, bien que nous soyons fort occupés dans la vie, nous les reconnaissons comme étant indispensables. Bon, la prière est indispensable. Et pour ceux qui sont plutôt activistes parmi nous, et moi je crois que j'ai un peu cette tendance-là aussi, j'aime pas trop ceux qui se cachent derrière une couche de spiritualité pour ne pas aider de manière pratique, j'aime demander aux gens d'aider de manière pratique. Bon, des personnes comme moi, nous devons comprendre qu'il y a une certaine arrogance de croire que mon activisme est plus important que ma dépendance de Dieu. La prière, vous voyez, plaide de la grâce de la part de Dieu, demande à Dieu d'orienter nos vies autour de sa gloire et de son évangile. Laisse-moi vous parler maintenant de l'exemple d'une femme que certains d'entre nous connaissent dans cette église, mais qui ne fréquente plus notre assemblée de par invalidité corporelle, et cela depuis déjà 8 ans. J'aurais pu prendre d'autres personnes comme exemple. Mais André, si vous la connaissez, est quelqu'un qui maintenant a très peu de contact avec notre église, parce que l'église a évolué dans le temps depuis qu'elle était parmi nous. Mais elle m'a dit cette semaine, elle m'a même montré qu'elle a, elle, une liste de prières pour tous les jours. Un jour où elle prie pour la mission, différentes missions pour propager la bonne nouvelle de Christ. Un jour où elle prie pour des ouvriers de la mission. Un jour où elle prie pour différentes églises, y compris la nôtre. Un jour où elle prie pour les membres de sa famille. Un jour où elle prie pour des amis proches. Et un jour où elle prie pour ses amis non-croyants. Et ce qu'elle m'avait dit, c'est que si c'est super important que ce n'est pas juste le bout de papier qui compte, sinon ça devient juste un automatisme, bénis-les, je mentionne le nom et c'est tout, mais c'est une intercession pour que ces différentes personnes et œuvres continuent, eux, à croire et à vivre la réalité de leur foi à la lumière de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et André est un exemple de persévérance dans la prière, même 8 ans depuis qu'elle a quitté, d'une certaine manière, notre assemblée. Veillez-y. Mais ensuite, toujours le verset 2, dans une attitude de reconnaissance. Car la prière, ce n'est pas simplement une liste de requêtes ou des plaintes en attendant la gloire à venir, tellement c'est difficile la vie ici, donc on doit prier. Non, la prière exprime également notre adoration à Dieu qui nous a bénis richement en Christ, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas rien qu'un Dieu à craindre, mais merci Seigneur, à aimer, à adorer, car il est bon envers nous en Jésus-Christ. Priez donc ce Dieu, et nous sommes face à son initiative dans notre vie. Même le fait de prier témoigne que c'est lui qui a suscité en nous cette foi, sa grâce souveraine déployée en Christ, dans nos vies respectives. Si aujourd'hui ma vie est cachée en Christ, si en Christ je suis mort et ressuscité avec lui, cela est grâce à lui. Et donc tout au long de la lettre de Colossiens, il y a cet accent sur la reconnaissance. Voici quelques exemples. Chapitre 1, verset 12. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Chapitre 2, verset 7. « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. » 3, 15. « Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. » Et ensuite le verset 13 du même chapitre, 17 du même chapitre. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Donc si le premier sous-point ici nous aide à avoir la bonne attitude lorsque nous prions, comment ensuite devons-nous prier? Évidemment, il y a d'autres endroits où la Bible parle de la prière, mais ici, dans le petit B que nous avons, Paul attire notre attention sur une priorité importante. Verset 3, « Priez en même temps pour nous. » Nous, ici, c'est Paul et Timothée, son collègue, avec éventuellement d'autres collaborateurs aussi qui sont mentionnés plus tard dans le chapitre 4. Que veut-il dans les prières pour son équipe? Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, à cause duquel je suis emprisonné. Donc, petite pause, il est emprisonné, lui, mais au lieu de prier que Dieu ouvre les portes de la prison pour qu'il puisse marcher à travers cette porte vers la liberté, Paul démontre une autre priorité, une porte qui s'ouvre pour la parole. Car c'est la parole de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui, versets 5 et 6, porte des fruits et progresse. La puissance est là, à un point que Paul peut dire dans 2 Timothée que bien qu'il souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Alors, si la parole n'est pas enchaînée, on peut prier à tout moment, même lorsque nous sommes en prison, pour la parole, pour que cette parole avance, progresse. Qu'est-ce qui est au cœur de cette parole, ce message de l'Évangile, dit l'apôtre Paul ici, toujours verset 3, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. C'est quoi le mystère de Christ? Bon, chapitre 1, verset 27, Paul a parlé de Dieu qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Donc, c'est-à-dire le mystère dévoilé, là maintenant, pas la bonne nouvelle de Jésus. Ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, la bonne nouvelle de Christ révèle que la foi en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, toute personne, de tout arrière-plan, de toute culture, de toute langue, pas uniquement donc le peuple juif de l'Ancien Testament, peut connaître l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère de Christ révélé dans l'Évangile. Et Paul veut qu'une porte s'ouvre pour qu'il puisse encore annoncer ce message, bien qu'il soit lui enchaîné. Dès sa conversion, c'est ça la tâche que Dieu lui a confiée. Il est l'apôtre auprès des non-juifs. Et donc, il termine cette requête avec le verset 4, que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Paul, il doit en parler, il doit faire cela. Et il demande donc de prier pour cela. Et nous prions en Église, mais j'espère que nous prions individuellement également, pour que cet évangile que Paul a prêché, qu'il a annoncé, soit encore annoncé aujourd'hui. Que d'autres personnes ont des moyens d'être exposées du message de Jésus-Christ. Est-ce que nous prions, chers amis, pour cela? Le monde en a besoin. J'aimerais prendre pour exemple, peut-être il y a certains ici parmi nous qui prient pour leurs enfants. Peut-être vous n'avez pas d'enfants. Peut-être vous avez maintenant des enfants qui sont devenus adultes et vous priez un peu moins pour eux. Mais qu'est-ce que vous priez si vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes soucieux pour leurs besoins dans le court terme? Qu'ils arrivent à décrocher un premier travail, s'ils arrivent à ce stade de la vie, qu'ils réussissent un examen, s'ils sont encore aux études, qu'une opération se passe bien, s'ils sont en difficulté physique. Ben, j'espère que vous priez pour ces choses-là. Mais si vous vous limitez à cela, est-ce que vous êtes conscient que vos prières deviennent simplement un reflet des priorités que partagent ceux de l'extérieur, qui, eux, courent après les idoles de la famille, de la santé, de la réussite professionnelle? Le chrétien doit viser plus loin pour le progrès de l'Évangile chez les uns et les autres, chez nos enfants, si nous en avons. Car nous pouvons, pour finir, nous présenter devant Dieu à la fin de notre parcours ici sur terre, au chômage, divorcé, pauvre et malade, ou en ayant eu le succès professionnel, la richesse, la bonne santé, un beau mariage. Mais dans les deux cas, il va falloir le pardon de notre Dieu pour pouvoir accéder pour l'éternité à sa présence. Et donc, nous prions, bien entendu, nous devons prier pour que Dieu ouvre une porte pour que cet évangile avance, progresse parmi nous, d'abord dans nos familles, mais ensuite là où Dieu nous a placés dans ce monde. Dans notre voisinage, auprès d'autres membres de la famille, et encore. Nous ne devons pas perdre notre compréhension de la grandeur de Dieu qui, effectivement, est le Dieu qui ouvre des portes. J'ai assisté cette semaine à une pastorale pour l'AEPEB, donc c'est notre association d'église qui organise cette convention dont on vous a parlé. Et cette pastorale était menée par un ancien directeur de Portes Ouvertes, hein, Michel Vartan, qui, lui, parle dans ce livre, et il nous en a parlé lors de cette pastorale, de l'œuvre missionnaire qui cherchait, dans Portes Ouvertes, qui cherchait d'abord à partager l'Évangile en Europe de l'Est, derrière le rideau de fer, lorsqu'il y avait le communisme. Et il parlait de à quel point c'était difficile d'avoir accès à ces pays. Et il se décourageait par rapport à ces difficultés. Et le frère André, qui avait lancé Porte Ouverte, entrait dans une réunion d'un petit nombre de collaborateurs et il a dit, nous allons avoir une nouvelle initiative, nous allons prier pour 7 ans pour Moscou, pour le pays de la Russie, pour avoir une ouverture d'un point de vue des responsables, pour que l'évangile puisse atteindre ce pays et ce peuple communiste. Et il témoigne dans son livre à quel point il ne croyait pas vraiment que Dieu pouvait faire quelque chose à travers cette prière. Et ensuite, bon, c'était en 1983 où ils avaient commencé. Ensuite, il y avait à un moment donné le Perestroïka, si vous vous souvenez de cela, le Glasnost. Et novembre 1989, quasi 7 ans exactement après le frère André a lancé cette initiative de prière, le mur de Berlin tombe. Alors, bien sûr, d'autres facteurs jouaient pour que le rideau de fer tombe dans son ensemble. Mais pensons-nous que Dieu, le Dieu de toute la terre, il ne peut pas se servir de tels facteurs politiques et autres pour exercer ses plans? Non, il peut. Nous devons, les amis, prier pour que Dieu ouvre des portes. Il en est capable. Et Michel Vartan dit dans son livre, les chrétiens de l'Europe de l'Est, à ce moment-là, disaient simplement, vous avez prié pendant 7 ans, et nous avons prié pendant 70 ans. Donc la première exhortation que Dieu nous donne, c'est la prière, la persévérance, vigilance pour faire face aux dangers, et le désir de voir le monde non-chrétien atteint avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors la deuxième exhortation, je pense que nous serons un peu plus courts pour la deuxième, tourne le regard vers notre comportement, nos paroles, lorsque nous nous trouvons en compagnie de ceux de l'extérieur, que ce soit la famille, des collègues, des amis, des voisins, des connaissances, peu importe. Que voyons-nous là? Un engagement à vivre, une exhortation à vivre avec sagesse. Verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse ». Envers les gens de l'extérieur. Et pour nous aider à répondre ou à découvrir ce que cela signifie, nous posons donc 3 questions dont les réponses se trouvent dans le texte. D'abord, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? La réponse, toujours dans le texte, racheter le temps. Racheter le temps. C'est le même mot racheter, employé pour parler de Jésus qui nous a rachetés dans l'Épître aux Galates de la malédiction de la loi en devenant pour nous malédiction. Donc, il a payé le prix pour cette délivrance. Mais dans quel sens allons-nous, nous devons racheter le temps? Dans le sens où nous devons, je pense, compatibiliser le temps. Se rendre compte que le temps est précieux et il faut mettre à profit toute occasion qui se présente à nous, auprès des gens de l'extérieur. Non seulement sommes-nous tous ici sur terre rien que pour un court moment, tu nous as donné à nos jours la largeur de la main, dit le psaume 39. C'est court, la vie. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas gaspiller le temps que Dieu nous donne. Mais en Colossiens, nous vivons, comme nous l'avons vu, toujours pendant la période où notre vie est cachée en Christ. Un jour, cette vie paraîtra. Et notre attitude envers ceux de dehors doit prendre en compte cette réalité. Donc, si nous prions pour une porte ouverte, alors lorsque Dieu nous ouvre une porte, il faut profiter de cette occasion. Il faut y aller, il faut saisir l'occasion pour aider une personne à comprendre des réalités cachées. Est-ce ceci justifie qu'on s'en fiche royalement des croyances et des sensibilités de la personne en face de nous? Car peu importe, il faut foncer, il faut racheter le temps. Ici, la deuxième question nous aide. Comment sont les propos qui sortent de nos bouches? Que dit l'apôtre Paul, verset 6? Que votre parole soit toujours pleine de grâce. Pleine de grâce. Est-ce que cela signifie le contenu de l'Évangile, la grâce de Dieu envers nous, ou est-ce que cela signifie plutôt le comment que nous communiquons cette grâce, avec compassion? Ben, il se peut que ce soit les deux. Certainement, Pierre, dans un texte similaire, dans son épître, au chapitre 3, il vise les deux. Qu'est-ce qu'il dit? Pierre, soyez toujours prêt à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Donc là, on parle de la grâce de Dieu, mais faites-le avec douceur et respect, plein de grâce. Donc, notre attitude ne doit pas être agressive envers ceux de dehors, ni en fait défensif. Et souvent, les deux se trouvent ensemble, n'est-ce pas? Parce que nous nous sentons parfois menacés par quelqu'un qui ne partage pas nos croyances, nous avons parfois tendance à être un peu agressifs dans notre défense par rapport à cela, parce que nous avons un peu peur de leur positionnement. Non, mais notre attitude ne doit pas être agressive. Mais parce que nous dépendons de Dieu dans la prière, il y a moyen de bien écouter ce que quelqu'un nous dit. Il y a moyen de faire ça, bien peser les propos d'une autre personne. Et ensuite de bien communiquer par la suite. De ne pas être menacé comme si le Dieu de toute la terre, il est menacé par une personne qui ne croit pas en lui. Ce n'est pas le cas, les amis. Et cela signifie que nous ne devons pas forcer quelqu'un à nous écouter, être là avec un placard en disant « je veux le dire parce que c'est ainsi que je suis fidèle ». Non, nous devons comprendre que c'est légitime pour quelqu'un de ne pas vouloir échanger à un moment donné ou à un autre avec nous. Mais ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous cherchons, ce sont des occasions pour parler avec des non-croyants de notre foi en Jésus-Christ. Et cela nous mène à la dernière question. Quel assaisonnement mettons-nous dans notre assiette? Que dit-il ici, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors, de quoi parle cette métaphore de sel? S'agit-il des paroles donc, qui donnent de la saveur, qui remuent donc, la pensée de l'une ou l'autre personne à propos de Dieu ou de la foi? Ou bien s'agit-il plutôt des paroles qui ont une influence saine sur une conversation, sur notre société, car cela se distingue des propos des autres? Ou bien simplement des paroles bien placées, réfléchies, sages, qui répondent de façon appropriée aux questions posées à notre regard? Ben là, de nouveau, je pense que probablement c'est une combinaison de toutes ces choses que Paul prévoit. Paul appelle les chrétiens à parler à leurs voisins, à leurs amis, à différents membres de leur famille, à des non-croyants, là où ils les trouvent, avec des mots aimables, chaleureux, mais également des mots interpellants, dans le but de pouvoir répondre aux non-croyants, parce que Dieu est à la hauteur de la non-croyance. Et donc, il nous équipe pour pouvoir aider de telles personnes à découvrir le Christ. Paul envisage donc une église capable d'interpeller des personnes de par leur exemple, mais aussi leurs propos réfléchis au sujet de notre espérance en Christ. Alors vous, ce matin, chers amis, vous vous situez où sur cette échelle? Un peu côté silence lorsqu'il s'agit d'une discussion à propos de la foi, parce que vous dites, ben, je ne sais pas quoi dire, c'est privé, c'est ma foi, ça ne regarde pas les autres. Ou peut-être ici, trop direct, une parole pas suffisamment pleine de grâce et assaisonnée de sel, car vous devenez agressif ou même sourd lorsque vous discutez avec quelqu'un. Notre amour pour Dieu exige le courage de vouloir chercher à parler de Christ. Mais notre amour pour notre prochain exige une façon d'exprimer notre foi avec respect et avec patience. Parler sans comprendre celui auprès de qui nous parlons, ben nous sommes simplement insensibles. Comprendre sans vouloir jamais parler de la foi en Jésus-Christ, alors nous sommes simplement des caméléons. Ça se dit comme ça? Caméléons. Merci. à ce que vous nous êtes des caméléons alors qu'ils changent nos couleurs dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons, afin d'être acceptés. Dieu nous appelle à vivre avec sagesse dans ce monde, auprès de ceux de l'extérieur. Donc cela signifie de ne pas parler uniquement du foot, ou de Netflix, ou de la musique, ou quoi que ce soit d'autre, mais aussi de chercher à parler de Christ, de notre espoir, de la grâce, de racheter le temps, de ne pas chercher simplement à condamner le non-croyant de manière défensive, de rejeter de telles personnes quand elles vivent dans le péché, mais d'accorder du temps pour qu'il y ait de l'opportunité pour ta parole d'être pleine de grâce et assaisonnée de sel. Au lieu donc de penser que je n'ai rien à dire, nous pouvons être confiants que oui, il y a quelque chose à dire. Dieu, il nous équipe pour pouvoir exprimer cette grâce aux uns et aux autres. Peut-être deux exemples pour terminer, juste en pratique. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de donner un exemple de cela. Cette semaine, j'imagine, vous êtes au courant, même en entrant dans cette pièce aujourd'hui, parce que le stage pour les enfants qui a lieu ici dans ces locaux a mis une table où il y avait tous les trucs autour d'Halloween. Alors, quelle est la réponse chrétienne par rapport à cette fête d'Halloween qui, tout d'un coup, prend un peu plus d'ampleur, même en Belgique? Bon, je ne fête pas ça, vous savez, c'est du diable. Et je cherche à dire ça quand les autres veulent fêter cela. Parce que c'est la seule chose que nous pouvons dire, même si nous avons la conviction que ce n'est pas sain de célébrer la mort et célébrer tout ce qui est autour de la mort. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, lorsqu'un enfant toque sur la porte, de dire autre chose que « je suis chrétien, ce n'est pas pour moi ». Est-ce qu'il y a moyen de dire quelque chose autour de « c'est joli, des couleurs, n'est-ce pas ?» Lorsqu'on voit dans le noir tout d'un coup la lumière, ça me fait penser d'une autre façon de trouver la lumière. Est-ce que je peux vous partager un peu mon espoir en Jésus-Christ qui parle d'une lumière dans les ténèbres? Est-ce que je peux ouvrir la porte à un enfant et au lieu de dire « vous avez été sage », alors si oui, je vous donne un bonbon, est-ce que vous pouvez dire quelque chose du genre « vous avez été mauvais » et ils disent « non, j'étais sage ». Alors je ne donne pas un bonbon à ceux qui ont été sages, je donne un bonbon à ceux qui ont été mauvais. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est comme ça. Il donne quelque chose qui n'est pas mérité, au lieu de ce bonbon qu'on pense doit être mérité. La bonne nouvelle de Christ bouleverse la façon de penser. Et donc, de ne chercher jamais à avoir quelque chose d'intéressant, interpellant, auprès d'un ami non-croyant. C'est dommage. Nous devons prier pour ces occasions. Et nous devons ensuite chercher ces occasions. Même, qu'est-ce que vous allez dire si vous êtes au bureau demain, ou si vous êtes en famille, là maintenant, auprès d'un repas? Qu'est-ce que vous allez dire? C'était bien l'église? Ils savent que vous fréquentez l'église? Si c'est simplement, oui, c'était bien. Défensif, ça ne vous concerne pas, c'est ma foi, ce n'est pas la vôtre, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Donc, on n'en parle pas. Porte fermée. Oh, combien c'est dommage d'avoir une réaction qui ne cherche pas à ouvrir la porte. Demandez à Dieu d'ouvrir la porte. Vous pouvez dire simplement quelque chose du genre, vous savez, aujourd'hui, en fait, j'ai découvert un nouveau chant. Et j'ai beaucoup apprécié ce chant. Alors souvent, c'est une approche un peu différente. Et la personne dit, bah, c'est quoi ce chant? Et dès que vous avez cette question-là, vous pouvez dire, bah, ça s'intitule, c'est le chant qu'on va suivre, on va chanter après. Par ta grâce infinie. Vous pouvez dire, la mélodie est bonne, je pense que vous allez l'aimer aussi. Et ensuite, le contenu me parle de mon appartenance à Dieu. Mais vous savez comment? Pas sur base de mes œuvres religieuses, de mon mérite, mais sur base de sa grâce infinie. Et s'ils disent, bah, très bien, maintenant passe-moi le sel et on mange, vous pouvez dire, ah, du sel, ça me fait penser aussi d'être assaisonné de sel. Et vous avez une discussion là-dessus. Et si vous dites, arrêtez, ça ne m'intéresse pas, vous dites, très bien. Et vous priez pour une nouvelle opportunité la prochaine fois. Donc, chers amis, avec cela, je pense que nous devons prier parce que le Seigneur nous invite à persévérer dans la prière. Prions. Oui, merci Seigneur pour ce que tu nous exhortes à faire, à persévérer dans la prière, à chercher des occasions pour que la parole puisse encore avancer, mais aussi à nous conduire avec sagesse envers les gens de l'extérieur. Donne-nous toujours d'être conscients que nous avons été nous-mêmes, à un moment donné, quelqu'un de l'extérieur. Et ensuite, tu nous as graciés. Nous avons été réconciliés avec toi. Et donne-nous alors d'avoir le souci de voir d'autres personnes réconciliées pour toujours. Des personnes qui ne doivent plus faire face à la colère de Dieu à la fin de leur jour, mais les personnes qui puissent entrer confiants en ta présence parce que Jésus-Christ est mort à leur place. Donc, œuvre parmi nous pour que ton peuple soit un peuple qui persévère dans la prière, soit un peuple qui se conduit avec sagesse. Au nom précieux de Jésus, nous t'en prions. Amen.